Salut à tous, bienvenue au Phoenix Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon associé Jérôme. On a parlé de combien de temps devrait durer une perte de poids de façon durable. On a parlé de l'importance de la personnalisation lors d'un processus, la différence entre une perte de poids rapide et une perte de poids durable, le rôle du métabolisme dans la durée d'une perte de poids, trois raisons pour lesquelles on atteint un stade de plateau et les adaptations métaboliques. On a également parlé de l'impact des habitudes alimentaires sur un processus de perte de poids évidemment durable et de comment éviter la frustration et l'abandon lors d'un processus de perte de poids. Bonne écoute!
Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie.
Salut à tous, bienvenue dans le podcast numéro 2 de la saison 2, dans le podcast Phoenix Podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon associé Jérôme. On parle de combien de temps devrait durer une perte de poids. Puis, en gros, c'est qu'on sait que ça ne devrait pas être éternel, parce qu'on ne devrait pas toujours être en perte de poids. Il y a plusieurs raisons à ça. Et surtout, il y a plusieurs problématiques qui peuvent être engendrées si on maintient une perte de poids qui est trop longue, voire trop drastique. Fait qu'on va entamer ça directement. Jay, ça va bien?
Ouais, ça va super bien, toi.
Super bien. Point numéro un, tu voulais partir avec ça, l'importance de la personnalisation. C'est pas tout le monde, c'est pas pareil pour tout le monde. On n'a pas tous le même poids à perdre. Parle-nous un petit peu de ça.
Bien, en fait, le point dans tout ça que je veux réussir à citer ici aujourd'hui, c'est l'important d'avoir un processus qui est adapté à toi. Parce que souvent, les personnes ont tendance à vouloir aller en ligne chercher un petit programme déjà préfait. Ils veulent essayer de pas trop, on va dire, tu sais, ils veulent essayer d'investir le moins possible dans leur santé, mais ça devrait tellement pas être ça la mentalité que les gens devraient avoir. Parce que ta santé, c'est la chose qui a le plus de valeur que tu as dans tout ce que tu es. C'est littéralement ce qui te permet d'avancer, de gagner ta vie, d'aimer, de vivre des moments passionnels, puis toute l'équipe. Fait que littéralement, la santé devrait jamais être négociable. Fait que investir 500, 1000, 1500, 2000, à la limite 10 000, 15 000, 20 000 dans ta santé, c'est des choses qu'il y a du monde qui font, puis c'est ces personnes-là qui bénéficient d'une meilleure santé, d'une meilleure vie, puis tout. Fait que le point dans tout ça, là, c'était que je voulais parler, dans le fond, de 6 différents aspects qui vont faire en sorte d'avoir un processus adapté. Puis tu sais, le point dans tout ça, c'est ça. Le métabolisme, premier point. Tout le monde a un métabolisme différent. On a un métabolisme individuel. Tu as un métabolisme qui est différent au mien. Fait que, tu sais, dépendamment de la masse musculaire, dépendamment aussi de l'activité physique que tu fais, dépendamment aussi de ton âge, de ton sexe, de toute l'équipe, ça joue énormément. Fait que, tu sais, de dire, exemple, que, je sais pas moi, Jean, 50 ans, va prendre une diète en ligne, 1800 calories. Puis Samuel Beaulieu Cadieux, 30 ans, va prendre une diète en ligne.
29.
T'es pas encore 30. 1800 calories. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas te dévitaliser à fond, tu vas vraiment avoir de la misère, tu vas perdre tes performances, tu vas probablement perdre la libido, tu vas perdre la cognitivité, ça va te nuire, ça va t'impacter négativement dans toutes les sphères de ta vie. Et Jean, lui, ben, il va peut-être réussir à perdre du poids, peut-être même que parce qu'il mangeait 1400 calories, il va voir un gain dedans, son énergie, sa force, sa vitalité, puis tout. Fait que le but, c'est de réussir à comprendre que chaque personne a des besoins individuels et que quand on s'en va donner une solution facile, peu dispendieuse, qui n'est pas adaptée, ben en général, ça ne mène jamais vraiment nulle part sur le long terme. Puis tu sais, d'avoir quelque chose qui est adapté à ta personne, à ton écosystème, à ton équilibre, à ton mode de vie, à toi, c'est la chose la plus importante de toutes. Fait que le point le plus crucial, selon moi, pour réussir à avoir une perte de poids durable et de le maintenir dans le temps, c'est de savoir quelles sont tes métriques à toi. Parce qu'en ce moment, Sam, combien de calories totales, le métabolisme total, environ que tu as au courant de la journée?
3000.
Tu es à 3000 à peu près. Moi, je peux te dire qu'actuellement, je suis à 2800 calories. Donc, si je mange 3000 calories, il y a de fortes chances que je prenne 200 calories de surplus et je vais prendre du poids. Fait que pour moi, bien manger, pour stabiliser mon poids, être cognitivement alerte, de vraiment être optimal, 2800 calories, c'est pas mal mon summum. Mais dès l'instant où je vais dépasser ça, techniquement, je vais être dans le déséquilibre et ce ne sera pas quelque chose que je vais pouvoir faire sur le long terme. Pourquoi? Parce que je vais tout le temps avoir 200 calories de trop. 200 calories sur un mois, ça va peut-être me faire prendre 1,5 livres de gras. Sur un an, je vais peut-être avoir pris 10 livres. Sur 10 ans, je vais être rendu à base morbide. Tu comprends? Fait que c'est par rapport à la réalité qu'il faut être capable d'aller adapter le métabolisme individuel. Et ça, il y a plein de, comment je pourrais dire, de calculateurs en ligne qui vous permettent d'être capable d'aller savoir votre métabolisme basal et votre métabolisme total. Fait que à tous ceux qui l'écoutent, qui se posent la question, c'est quoi mon métabolisme? Vous avez deux possibilités. La première, venez nous voir chez Phoenix. On a une bioimpédance qui le calcule à très haute précision. C'est la bioimpédance in-body. Elle vous permet de savoir littéralement votre métabolisme de base, inactif. Et moi et Sam, en général, on fait l'interprétation par rapport aux questions qu'on va vous poser, puis on va vous déterminer votre métabolisme total, le nombre total que vous brûlez avec activité physique. Sinon, le deuxième, sur Google directement, faites juste tout simplement demander un calculateur métabolique et rentrez les informations qu'ils vont vous demander. Par la suite, vous allez être capable d'avoir vos chiffres. Et en lien avec ça, si vous vous faites vendre une diète parce que votre métabolisme est de 1800, vous faites vendre une diète à 1500, c'est fautif, c'est fou, puis ça va plus vous nuire que vous faire du bien. Puis non, vous ne perdrez pas de poids, vous allez juste affecter vos fonctions vitales, puis vous allez faire des effets yo-yo instantanés. Fait que de bien comprendre ça. Le deuxième point, c'est l'âge sur la réponse corporelle. Parce que si, exemple, puis ça je l'entends, puis Sam, tu dois sûrement l'avoir entendu énormément de fois en clinique, tout comme moi, la femme de 40 ans qui a eu deux enfants, qui commence la ménopause, qui commence à avoir un déclin hormonal quand même solide, puis elle veut revenir comme quand elle avait 20 ans. Puis elle se base tout le temps dans son processus de perte de poids. « Ah, oh, mais quand j'avais 20 ans, je perdais du poids rapidement. Mais quand j'avais 20 ans, j'étais moins essoufflé. Ah, mais quand j'avais 20 ans, t'as plus 20 ans. » Puis il faut comprendre que le corps, veut pas, vient à créer de l'usure, vient à avoir des impacts digestifs, vient à avoir fait... Il a fait de la médication, il a eu des troubles, il a eu toutes sortes de petites choses qui auraient pu se passer tout au long de ta vie. Tu as eu un accouchement, peut-être deux. C'est un chamboulement hormonal phénoménal. Et le processus de vieillissement va, puis c'est prouvé, engendrer une plus grande difficulté à perdre du poids. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas perdre du poids. Ça veut juste dire que ton corps va créer, on va dire, une résistance en lien avec les impacts que tu as pu avoir.
Je veux rajouter un point là-dessus parce que je pense que c'est super important. L'âge et même, je dirais, la ménopause ont le dos très large.
Très large, confirme.
Genre, c'est vrai, comme tout le monde le sait que le métabolisme ralentit un petit peu avec l'âge, mais c'est très minime. Mais moi, il y avait des études qui démontraient que c'était pas avant l'âge de genre 72 ans. Fait que vraiment, pour qu'il y ait une diminution significative, pour dire « Oh my God, c'est quasiment impossible pour moi de perdre du poids ». Fait que c'est facile de se mettre dans le moule du genre « Ah, oh, je suis rendu, j'ai atteint 40 ans. Ah, »
Ça va être difficile.
Ouais, genre, je suis plus capable de perdre du poids
à 40 ans.
Fait que oui, c'est vrai, mais comme ça a le dos large. Là.
Absolument, puis tu sais... C'est ça. OK, je suis d'accord avec ça.
C'est
ça. Je suis absolument d'accord avec ton point. L'andropause, les hormones, la vieillesse, vraiment le dos large. Puis moi, ce que j'avais lu un moment donné dans un livre, j'avais trouvé ça super intéressant, mais le docteur qui avait cité cette phrase-là avait dit littéralement, ce n'est pas le métabolisme qui s'affaisse. C'est que les gens viennent avoir plus peur du danger, de s'entraîner dur. Les gens commencent à devenir de moins en moins actifs. Fait que si tu regardes en tant que tel, puis ça, c'est facile à voir, là. Il y a une dégradation musculaire à partir d'un certain nombre d'âges, certain nombre d'années. L'homme, en général, à partir de 35-40 ans, il va peut-être commencer à avoir un déclin hormonal. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il vient à diminuer aussi son activité physique. Fait qu'au lieu de bouger, être très actif, être un jeune pimpant qui est tout le temps à crouse puis de l'équipe, bien là, il commence à se ranger un petit peu plus, il commence à marcher à la place d'un 10 000, 6 000 pas, il commence à faire plus attention à son dos parce qu'il y a eu un antécédent de blessure. Fait que le gars, il diminue. Fait que qu'est-ce qui se passe avec la diminution de l'activité physique? Diminution de la masse musculaire. Qu'est-ce qui se passe avec la diminution de la masse musculaire? Diminution du métabolisme.
Ma grand-mère, tu viens de me donner un flash. Genre, là, un mois, je suis allé voir ma grand-mère. Ça fait longtemps que je n'étais pas allé. J'ose avec elle, plein d'affaires. Elle faisait une affaire qu'on appelle vie active, qui est, en tout cas, où qu'elle habite. C'est une salle communautaire. Puis toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, ils ont payé un montant par mois. Puis c'est comme une espèce de cours en groupe, très, très relax. Ils lèvent les bras. Puis elle trippait. Elle allait deux fois par semaine. Elle me disait qu'elle aimait ça. Quand je suis allé la voir, un mois, elle me dit, je parlais de ça un peu. Elle dit, ah non, j'ai arrêté tout depuis genre un ou deux mois. Je suis quand même, comment ça, t'arrêtais ça? Tu trippais, tu sais, ça faisait du bien. Ben, je me suis fait dire, j'étais peut-être trop vieille pour ça. Je suis comme, mamie, c'est littéralement
la chose
fait
la plus
pour
importante.
Vous. Genre, pour vous, je veux dire, pour les personnes âgées. Fait que là, elle fait comme moi, mais non, je pense que je suis trop vieille, tu sais. Mamie, elle est rendue vieille, Samuel. Là. Je fais comme, oui, peut-être, ok, t'es pas si jeune, mais genre, l'affaire, c'est que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Ouais. Puis toi, c'est le contraire, tu crois parce que t'entends des affaires ou t'as peur, fait que t'arrêtes, mais au contraire, ça va t'aider.
C'est des limitations, c'est incroyable. Puis tu sais, les gens ont tendance à ralentir. Puis moi, je regarde, admettons, mes deux parents. Tu sais, mon père et ma mère ont toujours été très actifs. Ils ont joué au tennis depuis les 20 dernières années. Ils s'entraînent musculairement depuis les 20 dernières années, deux, trois fois semaine. Puis tu sais, nous autres, c'était tout le temps la routine d'aller marcher là, à l'extérieur. On était tout le temps actifs. Puis ils viennent de prendre leur retraite il y a à peu près un an et demi, même pas. Fait un an à peu près. Puis mon père s'est inscrit dans un club de golf. Il joue au golf 3, 4, 5 fois par semaine. Il s'est inscrit au curling. Là, il s'est acheté un vélo électrique, commence à partir. Puis tu sais, il pédale son vélo. Il ne fait pas juste mettre le moteur à air. Puis il s'en va tout le temps à son cours de piano qui s'est inscrit pour point de plaisir. Il s'en va tout le temps en vélo là-bas. Il va faire son épicerie en vélo. À cette heure, c'est rendu qu'il s'entraîne 4 fois par semaine le matin à jeun. Écoute, ils n'ont jamais fait autant d'activités physiques parce qu'ils sont conscients que dès l'instant où ils vont diminuer, arrêter, s'écraser devant une TV puis se laisser mourir, ils vont juste dépérir extrêmement rapidement. Fait que la clé du succès, c'est de continuer. Puis l'âge a une réponse sur ça, mais en général, moi, mon point pour clore ce sujet-là, ce serait vraiment la peur vient à nous empêcher de bouger, puis le corps ralentit graduellement parce qu'on lui permet de ralentir. L'autre point, le facteur hormonal, ça, c'est un point qui peut faire en sorte justement qu'il vous faut un processus adapté à vous. C'est tout le temps le même optique. Le facteur hormonal, un homme, quand il tombe en andropause, il y a réellement un déclin hormonal. Fait que oui, on vient de citer que l'homme a tendance ou la femme a tendance à avoir plus peur un peu, mais il y a un déclin hormonal. Puis la testostérone, quand tu es rendu à 40 mg par semaine versus 100 mg par semaine, c'est pas du tout la même game. Tu as le verre d'eau plein à 20 ans, tu es craqué, tu as envie de pousser cette barre-là, tu veux jouer au football, puis tu es agressif d'aller plaquer l'autre gars. À 50 ans, tu n'as plus cette agressivité-là. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le même niveau de testostérone. Fait que d'avoir un protocole alimentaire pour un gars de 20 ans versus 50 ans, ce n'est pas du tout la même affaire. Mesdames, la même chose. Avant et après accouchement, vous n'êtes plus du tout dans le même mode de vie puis votre corps ne réagira pas de la même façon. C'est là qu'il faut aller chercher un bon spécialiste ou avoir une bonne stratégie adaptée pour le long terme. L'autre point, les différences alimentaires entre l'homme et la femme. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir à la clinique puis qui me disent, exemple, je fais une structure alimentaire à 1800 calories pour une femme, ce qui est quand même considérablement bonne pour une personne semi-active. Puis elle me dit, mon chum, peux-tu suivre ça? Alors, j'ai dit, combien est-ce qu'il pèse ton chum?
6 pieds 3, 2,40.
Carrément, exactement ça. Fait que 6 pieds 3, 240 livres. Là, je suis comme, ouf, ton homme va probablement plus être capable d'être un homme s'il fait ça. Là. Il va être faible, là, ça, c'est sûr. Fait que tu sais, c'est de comprendre que la femme, en général, parce que les besoins métaboliques, les besoins caloriques sont basés en général sur la masse musculaire, la masse osseuse, la masse tendineuse. Puis un homme, en général, c'est inévitable. Il y a peut-être un 30-40% plus de masse musculaire qu'une femme, dans la plupart des cas. Fait que de comparer, d'avoir une alimentation adaptée à la femme et à l'homme. Aussi, il y a un autre concept, le cinquième point. Ça s'appelle, puis ça, on va en parler en détail dans un seul podcast. Je crois que c'est à la saison 5 ou 6, fait que ça va très, très loin. Mais les neurotypes et l'alimentation. Puis ça, c'est des points qui sont quand même importants parce que toi, tu fonctionnes beaucoup plus avec les glucides que moi. Moi, ça a tendance à me crasher. Ça a tendance à pas être, tu sais, à pas faire le même effet positif que ça fait sur toi. Puis tu sais, chaque individu a un neurotype différent. Donc, le cerveau va réagir différemment par rapport aux molécules qui vont rentrer dans le corps. Fait que c'est bien important de comprendre que si, exemple, il y a des personnes qui sont insulino-résistantes, d'autres personnes insulino-dépendantes, les différents neurotypes, il y en existe 5. Il y a le neurotype 1A. C'est en général, puis je vais dire les traits, confiant, compétitif, qui réagit bien au régime riche en protéines et en graisses, avec moins de glucides. Ça, en général, je pense que c'est un petit peu moi, en général. Je pense que je suis beaucoup plus un neurotype de type 1A. Neurotype 1B, explosif, aime l'action, fonctionne bien avec un équilibre modéré de protéines, glucides et graisses. 35, 30, 35, ça pourrait vraiment être un bel écart dans la division des macronutriments. Neurotype 2A, polyvalent, adaptable, besoin de varier son alimentation et son entraînement. Ça, souvent, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'être variées dans leur alimentation. Fait que des journées, ils vont avoir un low carbs, d'autres journées, ils vont avoir un high carbs. Neurotype 2B, émotionnel, sensible, réagit mieux à un apport élevé en glucides pour gérer le stress parce que les glucides ont un effet sédatif sur le stress. Et le neurotype 3, une personne qui est très méthodique, organisée et qui préfère les repas riches en glucides pour apaiser l'anxiété. Fait qu'il existe différents neurotypes, puis par rapport à votre personne, un coach qui vous donne une alimentation, exemple, très riche en glucides, mais que vous êtes de neurotype 1A ou 1B, inévitablement, vous allez crasher. Ça ne vous ira pas comme alimentation. Ce n'est pas conçu par rapport à votre système nerveux et votre machine, votre biomécanique et tout. Fait que c'est bien important de comprendre ça. Et le dernier point de tout mon point, le poids à perdre. Tu sais, la raison du pourquoi il vous faut une structure adaptée puis pour être capable de le durer sur le long terme, c'est tous ces points-là, mais si vous avez 20 livres ou 60 livres ou 100 livres à perdre, une personne qui veut perdre 20 livres, c'est complètement différent qu'une personne qui veut perdre 60 livres ou 100 livres. Fait que, tu sais, si on regarde en tant que tel, c'est très simple. Mais plus tu as du poids à perdre et plus tu devras avoir une approche qui est progressive et qui va mettre des changements dans ta vie. Puis quand on parle de changement dans ta vie, c'est de reprogrammer toutes les petites habitudes malsaines qui peuvent faire en sorte qu'en premier lieu, tu vas prendre du poids. L'inactivité physique, l'alcool, le stress, le manque de sommeil, négocier avec ta santé, le manque de boire d'eau, le trop de glucides quand tu es trop inactif. Tous ces facteurs-là, à 60, 80, 100 livres à perdre, c'est impératif. Il faut qu'il y ait un changement radical dans ton écosystème et dans ta façon de travailler. Je vous explique un petit point ici, juste pour, dans le fond, je trouvais ça super intéressant de le citer, mais pour réussir à mettre de l'avant, dans le fond, une perte de poids de 20 livres, combien de calories ça prend et quel est le déficit qu'on doit avoir? Parce que le but, c'est de faire une perte de poids durable sur le long terme. Fait que, je vous donne un exemple. 20 livres de graisse à perdre, c'est l'équivalent d'aller brûler 70 000 calories. C'est ça que vous devez brûler en créant un déficit calorique via l'activité physique ou la nourriture.
Peux-tu expliquer le calcul?
Bien, techniquement, c'est 3500 calories pour une livre de graisse. Fait que principalement, 20 fois 3500 calories, on arrive à 70 000 calories à perdre pour réussir à atteindre l'objectif de perdre pas de 20 livres. Donc, si on fait le calcul sur 365 jours, ça fait 190 calories de déficit par jour pendant 365 jours. Est-ce que c'est viable, 190 calories par jour pendant 365 jours?
Ben oui.
C'est sûr. Tu vas juste tout simplement couper les petits aliments malsains, la petite alcool, tu vas peut-être augmenter tes pas de 4 000 à 10 000, puis tu viens déjà de faire ça. Fait que le but, c'est juste d'aller créer un léger petit déficit calorique de 200, maintenir ça de façon durable sur un an, et ensuite de ça, tu vas avoir ton poids santé. Deuxième étape, on a 60 livres. 60 livres fois 3500 calories, ça nous donne 210 000 calories à perdre pour réussir à aller perdre ce 60-là. Donc, si on le transpose sur 365 jours, 575 calories de déficit par jour pendant 365 jours. Est-ce que c'est viable selon toi, Sam?
Oui.
Pour encore monsieur et madame tout le monde? Oui.
D'être toujours en déficit calorique de 500. Pendant un an, c'est raide, mais l'affaire, c'est que les gens mangent juste vraiment trop. Fait que moi, personnellement, je serais capable.
Ouais, toi, tu serais capable. Moi, je serais capable parce que c'est à peu près la moyenne de déficit calorique qu'on est capable d'aller créer avec notre activité physique. Puis on se considère, on est jeune, on est en santé, on est en trentaine, on est très actif. Tu sais, tous les neurotypes, l'alimentation qu'on a est quand même considérablement optimisée. Puis on est capable d'aller chercher entre 500 et 800 calories de déficit. Mais quand on parle de gens 50 ans...
Bien, justement, maintenant, je veux dire de quoi par ça, parce vas-y. Que, tu sais, dans le fond, ça va un peu conclure ma réponse. Je viens de réfléchir, mais, tu sais, parce que toi, tu le calcules, c'est simple, c'est un calcul mathématique. Ouais. Tu fais, mettons, 60 livres fois 3500, je ne sais pas combien tu dis, là.
21 000. Là, 210 000.
Puis là, tu le divises par un nombre de jours 300. X pour savoir combien de temps ça va prendre. Mais l'affaire, c'est que ton déficit calorique, tu n'es pas obligé de le faire exactement pareil tous les jours.
Exactement.
Si quelqu'un, exemple, dirait, moi, mettons, dans le mois de février, de janvier ou de février à mars, j'ai rien de prévu tant que ça, je suis tout seul dans mes affaires. Moi, c'est facile d'avoir une routine puis de faire un déficit de 900 calories par jour. Bon, il peut faire, boum, 900 calories pendant un mois. Il vient de doubler, t'sais, il vient d'accélérer fois deux. Tandis que, mettons, en janvier, oh, c'est le temps des fêtes, divise par deux, fait un déficit de 200. Ouais. Au bout de l'année, il y a quand même 500 quelques par jour quand tu fais le total de 300 quelques jours.
Ouais.
Fait que c'est pas nécessairement tout le temps la même affaire. Fait que j'aurais tendance à dire oui, mais c'est sûr, ça demande
très bon effort. Point. Puis c'est vrai, puis c'est un bon point, ça. Il y a toujours des, on va dire, accrocheurs, des événements, des choses qui vont arriver dans votre processus. Puis tu sais, ça fait partie d'être capable d'avoir une perte de poids durable. Mais la différence, quand on veut réussir à faire une perte de poids durable, c'est les points que je viens d'indiquer ici. Tu sais, je parle du 100 livres, puis après ça, je ferai un petit résumé rapide du où je veux en venir avec ça. Mais 100 livres à perdre, fois 3500 calories, ça fait 350 000 calories. Ça veut dire qu'une personne qui veut perdre 100 livres a 350 000 calories sous forme de réserve de graisse. Mmh. Si tu divises ça par des pizzas et des poutines, on parle de peut-être 20 000 poutines ou 15 000 poutines. C'est gros, là. Ça en fait gros. Fait que c'est ça l'excès que tu as accumulé pour atteindre ton 100 livres de surpoids. C'est malade, pareil, quand tu penses à ça. Donc, un déficit de 950 calories par jour pendant 365 jours pour aller perdre 100 livres en un an.
Là, c'est plus maintenable.
Fait que tu comprends? Fait que, tu sais, le but, c'est de réussir à comprendre ces chiffres-là et de vous faire une stratégie pour être capable d'avoir un processus qui ne va pas être impactant et qui ne va pas vous nuire dans votre routine, votre écosystème, et faire en sorte que vous allez être capable de garder le cap. À 950 calories, je vous transpose ça, vous allez être restreint de 500 calories dans votre alimentation. C'est l'équivalent de, on va dire, une poignée de noix avec une portion de viande complète, avec deux fruits, puis, admettons, une tranche de pain beurre de peanut.
C'est quasiment ça. Tu parles du 900 ou du 500?
Du 500.
Ben,
ouais, poignée de noix, ça, ben...
Mettons, exemple, poignée de noix avec des fruits, ta viande. Là. En fait, attends, parce que je ne sais pas comment tu disais. Mettons, 9, mais tu disais pas 900 de déficit?
Oui, mais l'équivalent de créer un 500 calories dans ton alimentation et un 500 calories d'activité physique. C'était à l'objet.
Ce
qui fait un total. Fait que, tu sais, juste 500 calories en activité physique, c'est l'équivalent d'une heure quasiment de course.
Ah, ouais, ouais.
Fait que, tu sais, d'aller courir à chaque jour une heure, plus de vous restreindre quand même considérablement puis de couper 3, ouais, 4, intense, 5 là. Aliments, c'est intense. Ouais. C'est pas viable. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir des rages de caractère, vous allez être irritable. Vous allez avoir des baisses de sucre, vous allez avoir des baisses de fatigue, vous allez avoir de la baisse de cognitivité. Bref, il va y avoir énormément d'effets qui vont arriver parce que le déficit est trop drastique.
Je vais en parler justement de ça dans le point numéro 3.
Dans le point numéro 3. Fait que c'est vraiment ça en tant que tel, gang. Je refais un petit résumé parce qu'il y a quand même 6 gros points à ce point-là. Mais la base première, c'est le métabolisme individuel. Tout le monde a un métabolisme, comprenez-le. Puis si vous voulez faire une perte de poids durable, respectez bien ces 6 points-là. Comprendre son métabolisme. Comprendre que vous avez plus 20 ans. Si la personne qui écoute ça en ce moment a 40 ans, si tu te transposes dans cette situation-là, tu n'as plus le même physique. Fait que ta condition a changé, tu as d'autres réalités différentes. Tes hormones ont changé, c'est à prendre en compte aussi. La différence entre les hommes et les femmes. Tu ne peux pas manger comme ton chum ou ta conjointe pour perdre du poids, ça ne marchera pas. Les neurotypes, chaque personne fonctionne différemment sur l'alimentation et ça, faut que tu saches ton objectif sur le court, moyen, long terme, puis il faut que tu saches les chiffres associés à ça. Deuxième point, Sam.
Parce que tu vois qu'il voulait rentrer là-dedans, mais je pense que tu en as comme parlé quand même,
ouais.
Mais approfondis-le. C'était la différence entre la perte de poids rapide et durable.
Oui, exactement. Ben, tu sais, en soi, le but premier, c'est pour essayer d'éviter, parce qu'on va s'entendre, une perte de poids rapide, en général, c'est un peu comme tu avais parlé dans le dernier podcast. La perte de poids rapide, c'est tu fais un blitz pendant 2 mois parce que tu as un événement, tu es sur une diète. Puis tu sais, beaucoup de personnes viennent nous voir et ils disent « Moi, je veux… » Tu sais, j'ai fait des diètes dans ma vie, mais une diète puis un mode de vie équilibré, c'est pas du tout la même affaire. Fait que tu sais, quand tu embarques dans une diète, moi personnellement, une diète, c'est une alimentation préparatoire à un événement sportif pour un athlète. C'est un peu comme ça que je le perçois.
Clairement.
Fait qu'un athlète a 3 mois pour se préparer pour sa compétition, il va être sur une diète, puis lui, il va manger du poulet riz brocoli. Mais toi qui veux réussir à perdre du poids de façon durable, il faut que tu trouves un mode de vie qui va être adapté à toi et qui va te permettre d'atteindre ton objectif, mais sur le long terme. Tu ne dois pas le faire pendant 3 mois et ensuite arrêter. Tu sais, tantôt ici, je citais justement, perdre 60 livres, il faut dans ton… En fait, il faut que tu perdes 210 000 calories. Mais cette 210 000 calories-là, tu peux le perdre en 1 an comme tu peux le perdre en 5 ans. Mais le problème, c'est que si dans ton mode de vie actuel, tu fais 3 mois de perte de poids, tu vas brûler un 40, 50, 60 000 calories, mais qu'après ça, tu arrêtes ta perte de poids, tu as arrêté ta diète. Puis là, tu reprends tes anciennes habitudes, puis là, tu reviens à plus 1 000 chaque semaine. Ben, au final, tu vas revenir au même point de départ puis tu vas faire l'effet yo-yo. Fait qu'à la place de faire des diètes, gang, puis retirer, puis ça, c'est tellement important, une programmation que je veux que 100% des internautes apprennent, retirer le mot diète. Vous n'êtes pas sur une diète à moins que vous êtes un athlète de haut niveau ou un athlète qui se prépare pour quelque chose. Vous cherchez un équilibre et un mode de vie. Vous cherchez à reprogrammer vos habitudes. C'est vraiment ça qui est important. Fait que le mode de vie devrait être le mot que vous utilisez. Et quand vous voyez que vous avez des habitudes, on va dire malsaines dans votre alimentation qui vous tirent vers le bas puis qui vous font prendre du poids, vous devez travailler ces habitudes-là, comme l'alcool, 10 consommations par semaine, c'est trop, diminuer à 5 en premier. Le café, tu en prends 4 dans ta journée, diminuer à 2. Puis graduellement, développe un mode de vie d'une personne qui va avoir son poids santé. Mmh. Autre point, juste ici, être capable aussi de se dire que vous faites le processus sur le long terme. Puis c'est tellement important parce que la plupart du temps, quand les gens viennent nous voir, j'ai 50 livres à perdre. Bien, cette personne-là, elle veut le perdre, mais le plus vite possible. Puis j'ai dit tout le temps, pourquoi tu veux faire ça vite? Pourquoi tu veux absolument perdre du poids rapidement? Puis elle se retrouve dans une situation où elle ne sait même pas. C'est juste à cause de l'expectation de la société puis tout. Mais j'y ai dit, ton 50 livres, là, d'un, on va apprendre des bonnes bases, on va structurer ton écosystème et ensuite de ça, tu vas entamer le processus de perte de poids, tu vas être encadré par moi, mais je veux partir de l'équation, te dire un jour, écoute, Jean, on va tout le temps prendre Jean, si je pars de l'équation après 5 mois ou 4 mois de suivi puis qu'il y a déjà entamé 30 livres sur 60, est-ce que tu es capable, est-ce que tu te sens capable de le faire par toi-même? Non, on continue le suivi. Oui, tu es capable de partir, tu le fais par toi-même. Puis c'est ça l'objectif. Fait que voyez tout le temps les résultats sur le long terme. Et votre objectif, c'est que vous soyez capable de vous dire que dans 5 ans, vous allez être encore capable de faire la même alimentation qu'actuelle vous faites.
Tu sais, si ça fait 30 ans là, que tu as accumulé, mettons, 60 livres de graisse, ça se peut que ça prenne pas 3 mois à le perdre. Ça fait 30 ans que tu l'accumules, man, ton 60 livres. Genre, prends le temps
totalement
de le perdre. Ouais. C'est important d'y aller à ton beat puis doucement.
Dans une autre optique, pour répondre à ta question, ça fait. Ben, pour répondre
c'est
à
même
ta,
pas une question.
C'est même pas une c'est question, un c'est un fait. Si ça fait 30 ans que tu ne prends pas soin de ton corps, que tu n'as pas bougé, et c'est normal que ce soit difficile. Puis c'est normal que ça va peut-être te prendre plus que 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an pour développer les habitudes, pour te remettre en santé. C'est un changement complet de paradigme. Tu sais, il faut que tu passes dans l'autre côté du spectrum. Un autre point, la surcharge d'exercice non soutenable. Puis ça, je le vois souvent. Puis tu sais, des émissions à TV comme, mettons, comment ça s'appelle, Hyper Gang, puis des affaires de même, là, The Biggest Loser, je sais pas si t'as déjà écouté ça. Ils mettent, écoute, tes voix à TV, c'est des personnes de 400 livres qui sont ils ont un traîneau dans le dos, ils ont le coach avec un fouet qui est en train de les fouetter. Ah ouais, ils poussent sur le terrain de soccer, puis ils font de l'activité en fou. Mais ces personnes-là, dès l'instant que le coach disparaît de l'équation, toute l'activité arrête. Fait qu'au final, faites des affaires que vous allez être capable de faire sur le long terme. Tantôt, quand on avait cité le déficit calorique, 365 jours à 200 calories de déficit, tu le sentiras pas, ça va pas être impactant. Puis c'est là qu'à peu près 70-80% de notre clientèle sont, du 200, du 300 calories de déficit. 365 jours à 1000 calories de déficit, impossible à faire. Mais ces émissions-là vous montrent des personnes qui ont 1000 calories de déficit par jour, sous supervision de professionnels, avec des fouettes dans le dos et tout. Fait que l'exercice non soutenable, c'est des raisons du pourquoi les gens vont avoir de la misère à atteindre leur objectif sur le long terme. J'ai hâte de recommencer à courir. Hey, là, je commence 5 fois par semaine. J'ai hâte de m'inscrire au gym. Hey, là, je commence 5 fois par semaine. Par rapport à ton écosystème, par rapport à ta réalité, ta famille, ton travail, ton stress, ton sommeil, es-tu capable d'y aller plus que 3 fois dans ta semaine, réellement? Ah, écoute, j'ai déjà de la misère, mais arrête de dire que tu vas y aller 5 fois. Tu fais juste tout le temps mettre des j'ai le mot expectation, mais des attentes tout le temps trop hautes, puis tu fais juste te décevoir. Et le quatrième point, c'est un des plus importants selon moi, c'est le manque de soutien au niveau du comportement et de la psychologie. Parce que quand on fait un processus de perte de poids, tu vas avoir des moments, des breakdowns, tu vas avoir des baisses de motivation, tu vas avoir des baisses de discipline, c'est inévitable. Fait que souvent les personnes, quand on fait le processus, quand on fait un processus, ils n'ont pas de support psychologique et comportemental. Et c'est là qu'un moment donné, le dead loop commence puis qu'il embarque dedans un tunnel sans fond, puis c'est là que l'effet yo-yo vient à revenir. Mmh. Fait que c'est les points marquants, je te dirais. Fait que c'était pas mal mes points face à ça.
Intéressant. Je passe au rôle du métabolisme dans la durée de la perte de poids, puis je vais faire un lien sur ce que tu as dit tantôt qui est super important. On a parlé, ben, je vais prendre tes exemples. Mettons, tu dis exemple, tu as un déficit de 200 calories tous les jours pendant 365 jours. L'affaire, c'est que c'est impossible d'être sûr de ça. Et le point que je veux dire là-dedans, c'est que le métabolisme basal, il est là. Comme t'as un nombre de livres de masse maig, ton métabolisme basal, mettons moi, c'est 1850 calories approximativement. Fait que je sais que c'est ça. Comme ça joue pas tant, à moins que je bâtisse une livre de muscle qui est vraiment difficile à faire, ça va monter à 1870, genre. That's it. Le métabolisme total est extrêmement variable. Pour plusieurs raisons. Parce que si, exemple, tu dis, moi, je fais 200 calories tous les jours, on est des êtres humains. Là. Fait que tu sais, il y a une journée, tu vas arriver, tu vas aller monter une montagne avec ta blonde. Ça se peut que ton déficit soit de 1500 cette journée-là si jamais tu ne changes pas ton alimentation. Comme tu peux faire une journée, tu es assis sur le divan chez vous, tu bouges moins. Puis ça se peut qu'au bout de la ligne, tu crois que tu es à 200 de déficit, mais tu es à 100 de surplus, genre, ouais, parce que tu as bougé moins. Fait que le métabolisme basal n'est pas vraiment variable. Le métabolisme total est extrêmement variable.
Très bon
fait
point.
Que faut comme tu t'adaptes à ça. Et je vais même aller chercher plus loin. Le métabolisme total est directement variable par rapport à la consommation d'énergie que tu prends. Dans le sens que plus que tu manges, plus que ton métabolisme s'accélère, moins que tu manges, plus qu'il décélère puis qu'il ralentit. Fait que tu sais, c'est extrêmement facile de calculer qu'est-ce que tu vas manger. Dans le sens que, mettons, tu dis « OK, je veux manger 2000 calories. » Tu checks une boîte de un sac de noix, 30 grammes, 190 calories. Une banane, 120. Puis là, tu additionnes. Puis c'est pas si compliqué d'arriver à peu près, exemple, à 2000, pas mal pile ou à peu près. Là. Tandis que si tu dis « OK, ben aujourd'hui, je veux calculer quelle est la dépense d'énergie que je vais faire. » Comment tu fais? C'est impossible. Puis même si tu me dis « J'ai une montre puis je la calcule », ça marche pas. Ouais. C'est trop variable. J'avais parlé d'une étude face à ça. Fait que c'est ça qui est difficile parce que c'est là un peu que les gens... C'est pas se tirer dans le pied, c'est que c'est là que la compréhension est difficile puis c'est là que c'est tout le temps gris un peu parce que c'est impossible de calculer réellement qu'est-ce qui sort comme dépense énergétique parce que les calculs ne nous permettent pas encore de le faire à la lettre, même s'il y a des machines ou des montres. Et en plus, c'est variable d'une journée à l'autre.
Absolument.
Fait que Je voulais revenir là-dessus, mais c'est intéressant. Ben, c'est un très bon point. Le rôle du métabolisme dans la durée de la perte de poids, ça l'introduit justement ce concept-là. Sinon, ce qui est important quand on parle du métabolisme, tu l'as glissé aussi de ça, j'ai tantôt, mais j'approfondis, tu parlais de la masse maigre, et c'est super important de maintenir notre masse maigre. Là, on parle d'un processus de perte de poids. Je crois que c'est encore plus important dans un processus de perte de poids, même si c'est important à tous les niveaux de garder une bonne masse maigre. Mais pourquoi? Parce que plus que tu as de muscles, plus que tu brûles de calories. Tu l'as dit tantôt, inactif. Le muscle, en fait, les calories ou le métabolisme basal, je vais le dire, est directement relié à la masse maigre. Donc, plus que tu as de masse maigre, plus que tu brûles de calories au repos. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une marge de manœuvre qui est plus grande. Souvent, je prends l'exemple d'Hugo Gérard. On salue Hugo Gérard. Je pense qu'il disait justement qu'il écoutait le podcast. non, mais mettons Hugo Gérard, puis peut-être que son métabolisme basal, puis là, je dis n'importe quoi, je sais qu'il est grand et qu'il est énorme, on va dire qu'il est peut-être de 2700 calories. Fait que lui, au repos, couché dans un lit, il brûle 2700 calories. Hey, il brûle tout ce que moi, je fais dans toute ma journée, et peut-être même plus.
Au repos, juste
au
à
repos,
respirer.
C'est ça que je te dis. Ouais. T'as pas compté son gym, le fait qu'il marche et qu'il mesure 6 pieds 7.
T'sais. Ben, tu sais, des gars comme, mettons, Brian Shaw, l'homme le plus fort du monde, je pense 4 ou 5 fois. Après ça, Eddie Hall, 4 à 5 fois. After, 6 pieds 9, 300, même je pense qu'il est 420 livres. Tu sais, ces gars-là, ils mangent 10 000 calories par jour, là. Mais tu regardes, c'est des buildings. Là. C'est littéralement... c'est un.
C'est là le point, c'est que cette tatouée, ça prouve ça. Dans le sens que, mettons, tu prends des arbres. N'importe qui, Hugo Gérard, c'est le meilleur exemple, c'est un Québécois.
Ouais.
Hugo Gérard, là, même, puis je te dis pas que c'est ça qu'il doit faire, puis c'est pas l'idéal, mais mettons qu'il dégobe 2 poutines par jour, là, ça changera pas grand-chose. Mm. Parce qu'au bout de la ligne, pas au niveau de sa santé, au niveau de sa perte de poids, ou prise de poids, il est pas en perte de poids. Là. Mais mettons, même s'il voulait perdre du poids et qu'il mange 2 poutines, pff, c'est pas si pire que ça. Il en dépense 6 000 par jour, tu comprends? Fait que sa marge de manœuvre est plus grande. Donc le point, quand on parle du métabolisme, c'est de préserver la masse musculaire, ou du moins de bâtir de la masse musculaire pour avoir un métabolisme qui est plus rapide au repos, basal. Donc tu brûles plus de calories au repos, fait que c'est plus facile d'aller perdre du poids ou de manger plus dans une perte de poids. Fait que tu as une marge de manœuvre qui est plus grande, tout simplement. Fait que quand on parle de préserver la masse musculaire, je vais en dire deux. Faire de l'entraînement musculaire, c'est évident, et manger assez de protéines. Tu veux monter ton apport en protéines lorsque tu veux embarquer dans une perte de poids.
Fait que, tu sais, ça, mettons, tu regardes une petite madame Ginette, je dis un nom de même, 40 ans, déjà fait plein de petites diètes, ça ramasse qu'elle mange en ce moment même. Elle sait même plus quoi manger, elle a peur, là. Puis littéralement, elle pense bien manger, elle déjeune 2 tranches de pain le matin, elle mange pratiquement pas le reste de la journée, elle mange une petite soupe aux légumes au dîner, puis après ça, elle mange pratiquement pas le soir. Tu sais, cette madame-là, qu'est-ce que tu y conseillerais pour réussir à commencer son processus de perte de poids, mais de l'avoir de façon durable?
Mais check bien, je ne veux pas dire Ginette, c'est une autre personne, mais j'ai une cliente qui a check bien ça. Dans le fond, je calcule son métabolisme basal. La fille, elle mesure genre même pas 5 pieds. On va dire 5 pieds, mais c'était genre 4 pieds 10, 4 pieds 11. Très petite, c'est une adulte. Et là, je calcule son... c'est ça. Mettons exemple, 4 pieds 11. On calcule son métabolisme basal sur la InBody, ou la InBody calcule le métabolisme basal. Ça donne une affaire comme genre 1050 calories. Mais 1000, OK? Fait qu'au repas, elle brûle 1000 calories. Fait, OK, c'est correct, c'est pas grave.
Mon enfant de 12 mois, 10 mois et demi, doit manger à peu près ça.
Ben, check-moi. Là, après ça, on arrive au niveau de son métabolisme total. Là, je fais les calculs comme je fais d'habitude, différentes choses. Et là, elle s'entraîne pas. Elle aime pas ça marcher. Elle trouve ça plate. Elle travaille dans un bureau comme réceptionniste. Ou peu importe, elle est dans un bureau. Là, je fais comme, OK, tu fais-tu du sport? Fais pas de sport? La fin de semaine, tu bouges-tu? Non, j'ai des enfants à m'occuper. OK. Fait que là, je dis, je fais le calcul, métabolisme total, 1200 calories. Là, je fais comme, OK, dans toute ta journée, on fait une moyenne, tu brûles peut-être 1200, même 1300, je suis généreux. 1300 calories. Là, moi, pour te faire perdre du gras, elle avait, mettons, 20 livres qu'elle voulait perdre, puis elle avait réellement 20 livres, techniquement, selon l'InBody qu'elle devait perdre, qu'elle avait accumulé. Fait que là, je dis, moi, si je veux te créer approximativement un déficit de 500 calories par jour pour faire une livre de graisse après une semaine, c'est un approximatif que je donne à tous mes clients, faudrait que je te donne 800 ou 700 calories par jour. Hey, 700 calories par jour, là, c'est 2 poignées de noix, man. Genre, 2 chèques, 2 poignées de noix.
Elle,
genre,
si elle tombe une fois sur une poutine de 1500
c'est
calories,
terminé,
c'est fini, elle prend tout en gras.
Donc, pour répondre à ta question, et là, c'est ça, j'ai obligé cette personne-là à faire ça, j'ai dit, je peux pas te suivre, je peux pas te faire, depuis moi, je te ferai pas une stratégie à 700, aucune chance. Je te ferai pas une stratégie en bas de 1000 calories, aucune chance. Moi, c'est contre mes valeurs. Puis je sais que ça ne t'aidera pas, je vais te nuire. Ça va peut-être te donner des résultats sur le court terme. Et c'est exactement le but du podcast. Sur le long terme, je vais te nuire. Donc, je dis, moi, je vais t'en mettre une à 1200 pareil. Tu vas me dire, mais je prendrai pas de poids. C'est vrai, parce que tu as un équilibre métabolique. Mais je t'oblige, il faut absolument que tu fasses de l'exercice. Sinon, ça ne donne rien, je ne te suivrai pas. Là. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Fait que genre, Puis là, honnêtement, ça fait un petit bouge là-dessus, ça va quand même bien, fait, je suis content. Mais le point, c'est qu'elle devait absolument bouger. Fait que pour Ginette, qui, exemple, c'est cette situation-là, bouge.
Ouais.
T'es pas obligé d'aller faire du squat puis des bicep curls, c'est pas ça le point.
Non, marcher,
va marcher, va courir, va prendre faire du spinning, utilise tes rollers, c'est pas là.
Ouais. C'est juste de, tu sais, on va en parler dans peut-être ce podcast là, mais le NEAT puis toutes ces dépenses là, tu vas en jaser.
Ben rapidement, c'est dans rapidement, mon troisième point tantôt.
Parce que tu sais, gang, on a déjà parlé dans un ancien podcast, mais si vous marchez actuellement, puis c'est la moyenne à peu près canadienne, on parle de 4300 pas, la moyenne canadienne actuelle. Mais si vous marchez 4000 pas par jour, c'est très peu, vous êtes inactif. L'être humain est conçu pour marcher des dizaines de milliers de pas. Fait que juste de passer de 4000 à 10 000, on parle de peut-être un 300-350 calories de plus de brûlé quotidiennement juste à cause des pas. Tu sais, hier, j'étais au téléphone, Sam, avec un de mes clients, puis littéralement, mon client est au téléphone, il me dit « Ah, écoute, moi, il y a une affaire que j'ai vraiment de la misère dans ce que tu me dis, c'est j'ai de la misère à faire mon 8000 pas. » Là, j'arrive, puis j'ai dit « OK, en ce moment, pendant qu'on se parle, on a 15 minutes à parler, t'es-tu assis ou debout? » T'entends se lever. J'étais assis. Là, je suis comme, ben, gars, écoute, moi, debout, toi, j'ai trois coaching calls aujourd'hui, puis les trois, je suis debout. Puis, gars, de ce moment, ça m'a indiqué que j'étais à 3500 tantôt. Je suis rendu à 6000. Fait que, tu sais, je viens de faire 2500 pas en parlant au téléphone par habitude, puis tout. Puis, ça l'a fait en sorte que j'ai peut-être brûlé 100-120 calories de plus. Fait que, c'était une personne-là, c'est des programmes à ça. Le NEAT, c'est tellement important, mais vous n'avez pas besoin d'aller faire du gros squat pesant de 400 livres. C'est pas ça. Le but, c'est juste de bouger.
Parce qu'au bout de la ligne, et c'est ça le point du podcast, c'est qu'on veut une perte de poids qui est maintenable.
Exact.
Et si tu t'habitues à bouger, ça va t'aider à tous les niveaux. Mm. Parce que ça va te donner une marge de manœuvre. Puis justement, je conclue ce point-là du métabolisme sur ça, c'est que si tu as un métabolisme total de 3000 calories, genre moi, qui est 3000 calories, puis je l'ai fait récemment, donc c'est à peu près là-dedans, dans une journée typique, et quelqu'un, une cliente ou Ginette que tu parlais, un métabolisme total de genre 1200 calories, j'ai littéralement une marge de manœuvre de 1800 calories plus qu'elle. 1800 calories, là, ça peut être une pizza et une poutine. À tous les jours, je mange une pizza et une poutine de plus que Ginette, puis je perds le même poids qu'elle. Parce que j'ai plus de masse maigre, puis je dépense de l'énergie. Donc, retenez ça, pour une perte de poids qui est durable, c'est pas obligé de faire de l'exercice, mais ça va tellement vous aider. Puis retenez toujours ça. Quand on fait de l'exercice musculaire, de la musculation, ce n'est pas pour brûler des calories. Tu fais de la musculation pour bâtir de la masse musculaire, pour accélérer ton métabolisme, pour plusieurs autres raisons, là. Mais dans un but de perdre du poids, c'est ça. Et le fait que tu bouges en vie de tous les jours, ça va t'aider. Puis, faut pas le voir en termes de brûler des calories, là. Mais si on parle de perte de poids, c'est quand même ça.
Un point qui est super intéressant. Puis ça, écoute, je vais juste le citer ici. Tu sais que je m'entraîne avec deux boys. Fait que j'ai, moi, 30 ans. Pat a 40, puis Gaétan a 55. Fait qu'on a littéralement trois générations, trois métabolismes différents. On a checké la masse musculaire à Pat. Il y avait 7 livres, 7 quelques de livres de masse, masse musculaire squelettique de moins que moi et Gaétan. Moi et Gaétan, on est pas mal kiff-kiff. Puis ce qui est intéressant, c'est que mon métabolisme basal est de 1880 calories. Celui-là, Gaétan, était de 1830 calories. Il y avait littéralement 20 ans de plus que moi, mais il a pratiquement le même métabolisme que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, mon métabolisme total, le nombre de calories que je dois brûler chaque jour, que je mange, que je peux manger chaque jour, on parle d'environ 2500, 2600, gros maximum 2700 calories. Là, ça tourne pas mal aux alentours de ça, ma moyenne constante, 2700. Puis Gaétan, là, son alimentation tourne aux alentours du 2100, 2200 calories avant de commencer à prendre du poids parce qu'il passe ses journées
son tout le temps. Son métabolisme, tu parles, pas son alimentation.
Métabolisme total.
Ouais, c'est ça.
Fait que moi, je peux lui donner gros maximum 2200 calories puis il vient nous faire toute une perte de poids parce qu'on avait baissé à 2100 calories. Mm. Fait que tu sais, c'est là la grosse différence, c'est qu'on a le même métabolisme basal, mais on n'a pas du tout le même métabolisme total. Mm. Je fais mes 12 000 pas, je m'entraîne 5 jours semaine, lui, il s'entraîne 3 jours semaine puis il fait 5000, 4000 pas. Puis c'est toute là la différence. Mm. C'est malade, mais c'est un exemple parfait. Puis d'un autre côté, Pat, 40 ans, il est sur six-pack, il boit de l'alcool, il se casse pas la tête, il n'a jamais eu aucune structure alimentaire. Il est super genre intuitif, il a envie d'une pizza, mange ça, j'ai envie de trois burgers, mange trois burgers, j'ai envie de 8 Roman Coke, il fait ça. Mais le gars, il est sur six-pack. Pourquoi? Parce que littéralement, on essaie de le suivre au niveau de la dépense énergétique, mais le gars, il n'est pas arrêtable. Il vient s'entraîner avec nous 3-4 fois semaine, mais il est sa construction, il passe environ au minimum entre 20 et 40 000 pas par jour. Là. C'est l'enfer, son affaire. Mm. Fait qu'il doit brûler 4 000 calories par jour. Fait que sa pizza, sa poutine, son alcool, puis tout, il a brûle tout. C'était un exemple parfait là parce que tu as le clash des générations. Puis tu sais, Pat a une plus petite natte musculaire, fait que son métabolisme dans les alentours de 1750. Gaétan, même métabolisme ou presque, on parle peut-être un 80 calories de moins. Là, juste à cause d'un 20 ans d'âge.
Donc, fait si on veut maintenir une perte de poids qui est durable, important de bouger. Ça va aider à tous les niveaux, autant au niveau des calories, autant au niveau de base de la masse musculaire pour être plus fort, pour brûler plus de dans le métabolisme basal au repos. Fait,
Je pense que c'est un des gros points clés. Si vous êtes sédentaire actuel, vous n'avez pas de marge de manœuvre avant de prendre du poids. Fait que c'est de bouger. Puis c'est de conditionner son corps à bouger un petit peu plus. Avant que tu passes au prochain point, il y a... J'explique souvent ça à mes clients, mais il existe le coefficient d'activité physique. Toi, tu l'utilises d'une façon différente.
Ouais, là, c'est la même affaire, mais on n'a pas le même chose. Calcul.
Ouais. C'est juste que toi, c'est en ratio 1.4 à 2, puis les affaires de même.
Non, 0.5 à 1.
C'est ça. Moi, dans le fond, c'est de 0 à 200 calories brûlées en termes d'activité physique, que ça peut être avec tes pas, avec l'activité physique, avec ta course, peu importe quoi, tu es inactif. De 200 à 400, tu es semi-actif. De 400 à 600, tu es considéré comme étant actif. De 600 à 800, tu es très actif. Et 800 et plus, tu es un athlète. Ça veut dire que si actuellement, si on calcule le nombre de pas, tu fais 4000 pas par jour, tu t'entraînes pas, tu fais pas d'activité physique spécifique, tu es en, on va dire, 70 calories brûlées. Comme ta madame, elle bouge pas, elle fait rien, elle a 1000 de métabolisme, elle a 1070, gros max, 1200, c'était généreux. Bien, cette personne-là, en tant que telle, elle est non active et son objectif pour réussir à avoir une perte de poids, c'est de passer dans l'autre catégorie qui est le semi-actif. Elle doit juste se mettre en marche, puis à la place de brûler de 0 à 200, elle veut essayer de brûler de 200 à 400 avec l'activité physique. Puis quand elle va avoir atteint ça, bien, elle essaiera de grind up pour aller faire de 400 à 600. Puis dès l'instant où elle va avoir stabilisé, exemple, à 400, 500, 600 calories, ce qui devrait être le standard de tout le monde, bien, elle va être capable bien plus facilement de manger des aliments plaisir, de juste profiter d'un poids plus santé parce que son corps va toujours créer une dépense énergétique. C'est un bon point, mais je pense que c'est 100%. Pas mal ça.
Prochain point, ça, c'est ça, moi, c'est la raison du podcast. Là. Je trouve ça tellement intéressant. J'avais fait un live à un moment donné là-dessus, mais je vais donner trois, puis ça va être assez détaillé, là, mais trois raisons pour lesquelles on peut atteindre un stade de plateau. Parce que quand on parle de perte de poids durable, c'est parce que la plupart du temps, les gens perdent du poids et atteignent un stade de plateau puis ne réussissent plus à perdre de poids. Donc, techniquement, je vais en dire trois points qui font ça, OK? Puis comment aussi les aider. Premièrement, le poids corporel. Et ça, c'est très simple, ça va durer 30 secondes. C'est, tout le monde comprend ce concept-là. C'est que plus que... On revient dans un concept de perte de poids, OK? Mettons que ton but est de perdre du poids et que ton métabolisme, tu pèses 200 livres.
Ouais.
Et que là, tu crées un déficit calorique pour perdre du poids, tu crées un déficit calorique de 500 calories par rapport à ton métabolisme. Et là, tu perds du poids, tu es rendu 196 livres, après ça, tu continues 194. Puis là, à un moment donné, on va dire, je fais un chiffron, tu arrives à 180 ou 185.
Tu as perdu 20 livres, 180.
Ben, mettons, 180, peu importe. 180, tu as perdu 20 livres et là, whoop, tu perds plus de poids. Et pourtant, on va dire, mettons, dans la situation, que tu manges exactement la même affaire que quand tu as commencé. Tu es comme, pourtant, je mange la même affaire que quand j'ai commencé, j'ai le même déficit calorique, ou tu crois que tu as le même déficit calorique, et j'y arrive. Tu as le même déficit calorique dans ta tête parce que tu manges 500 calories de moins que ton métabolisme, tu fais les mêmes efforts qu'au début à 5 ou à 200 livres, et pourtant, tu ne perds plus de poids. Pourquoi? Je vais dire les trois raisons. Premièrement, le poids. C'est que si tu es rendu à 180 livres, tu as 20 livres de moins sur toi, littéralement. Là. Donc, c'est sûr que quand tu marches, tu bouges, tu vas prendre une marche, tu dépenses moins d'énergie. Parce que qu'est-ce qui est plus demandant entre transporter un gars de 200 livres ou transporter le même gars 2, 3, 4 mois plus tard à 180? Bien moins demandant, c'est lui à 180. Donc, tu vas dépenser moins d'énergie, donc brûler moins de calories pour la même activité physique ou juste la même affaire dans la journée parce que tu as 20 livres de moins sur toi. Donc, une des raisons, c'est que ton déficit calorique du début, éventuellement, il ne fonctionnera plus. Tu vas atteindre un stade de plateau et ça, c'est une des raisons parce que tu vas être moins massif qu'au début.
C'est un bon point. Tout simplement. Tu sais, monte les marches 20 fois avec un pack-sac de 20 livres. Même enlève le pack-sac, lequel tu vas brûler plus de calories. Inévitable.
Et voilà.
Fait que tu brûles plus de calories dans ta journée tous les jours. Fait que la personne, admettons, on va dire son « eat ». Je pense que ça va vraiment faire un beau résumé de ce que tu viens de dire, mais la personne s'en va marcher 10 000 pas. Puis cette personne-là, 10 000 pas, en ce moment, à 200 livres, c'est comme si elle brûlait 300 calories. Puis là, elle marche 10 000 pas, mais avec 180 livres. Puis là, à la place d'être 300 calories, ça tombe à 240 calories. Fait qu'elle brûle moins de calories à être elle parce qu'elle dépense moins d'énergie parce qu'elle est moins lourde.
Très ça.
OK.
Point numéro 2, Adaptation métabolique, j'en ai sorti deux, OK? Très intéressant. Et quand je parle d'adaptation métabolique, c'est des choses que notre corps fait de façon physiologique sans que ce soit nous qui le fassent ou qui veulent ou qui ne veulent pas. Ça se fait no matter what. Première adaptation métabolique, métabolisme basal, on en parle beaucoup. Le métabolisme basal va finir par diminuer ou va diminuer tout simplement. Donc, le métabolisme basal du début, exemple, moi, mettons, il est à 1850 calories. Et là, en passant, c'est tricky, Jay, parce que, mettons, nous, la InBody, des fois, ça peut être biaisé à cause de ça. Parce que si tu commences un processus, mettons, exemple, j'étais à 1850, OK, fine. Mais à la fin du processus, même si c'est marqué, exemple, 1837, ah, j'ai perdu juste 13 calories, mais le réel métabolisme basal est souvent en bas de ça. Et c'est le concept de l'adaptation métabolique. Puis écoute, ça, c'est malade. Puis c'est l'étude qu'on parlait avec le 50%. Là. Il y avait une étude qui avait été faite sur des personnes qui perdaient du poids. Par rapport à leur métabolisme basal. Okay? L'étude avait pour objectif d'examiner comment la perte de poids affecte la dépense énergétique, en particulier le métabolisme basal et la thermogenèse, production de chaleur, chez les individus. L'étude a montré que chez les individus ayant perdu du poids, la dépense énergétique totale était réduite de manière disproportionnée par rapport à la perte de poids et de masse maigre. Écoute bien ça. Le métabolisme basal, pas total, basal, au repos, a diminué en moyenne de 20 à 25 % en dessous des niveaux prédits pour le nouveau poids corporel des participants. Donc, exemple, la InBody détermine que tu étais à 2000, on fait un chiffron. Bien, réellement, tu étais peut-être à 1750, 20-25 % de moins. Mais lui, c'est marqué 2000, c'est ta machine. Ça, c'est une adaptation métabolique. Le corps ralentit. Et en passant, la raison principale, très simple, pourquoi ça se produit, ton corps ne veut pas tomber en famine et crever. Parce que si tu es toujours en déficit calorique intense, à un moment donné, ton corps, tu vas finir par disparaître. Si tu as toujours un déficit calorique, tu n'existeras plus à un moment donné. Mais non, le corps s'adapte. Il ralentit son métabolisme pour pallier à ce que tu lui donnes, pour pas que tu meurs, puis que tu disparaisses littéralement, puis tu deviennes gros de même. Fait que c'est de même que ça fonctionne. Et même chez, puis là, le 50% que je te parlais, chez certains individus, cette réduction du métabolisme de repos, basal en fait, atteignait jusqu'à 50 %, ce qui signifie que leur corps brûlait beaucoup moins de calories au repos qu'avant la perte de poids. Ce qui veut dire métabolisme basal sur la InBody, 2000 calories. Ah, pas pire, OK. Métabolisme total, 2005. Non, mais réellement, c'était 1000. Et ça, évidemment, je le dis, moi, j'ai lu plus que juste les résumés que je fais live. C'était une perte de poids qui était drastique, donc vraiment intense et très longue. Okay. Fait que c'est pas en deux semaines que tu vas réduire de 50 %, inquiétez-vous pas. Mais après un très long délai et de façon très drastique, ton corps, éventuellement, va ralentir son métabolisme. Et si ça dit jusqu'à 50 %, c'est alarmant. Mm. Fait que quand on parle que 95 % des diètes ne fonctionnent pas sur le long terme,
c'est la raison.
C'est une des très bonnes raisons. Mm. Autre adaptation métabolique, la leptine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la leptine, c'est une des hormones que notre corps sécrète. En fait, tu as la ghrelin et la leptine. La ghrelin, c'est l'hormone que quand tu as faim, ton corps t'envoie de la ghrelin, dis « donne-moi de la bouffe, j'ai faim » pour pas que tu sois en famine, justement. Le contraire, la leptine, c'est quand tu te mets à accumuler trop de réserves adipeuses et que tu prends du poids, ou jamais, ou bien que tu manges tout simplement, ton corps sécrète de la leptine, principalement pour te dire « arrête de bouffer, je vais devenir en surpoids ». Okay? Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à mesure qu'on perd de la graisse, moins de leptine parvient au cerveau, ce qui augmente la sensation de faim, les fringales et peut même jouer un rôle dans la diminution du métabolisme. Une augmentation à court terme de l'apport calorique sous forme de glucides peut ralentir cette diminution. Tantôt, tu parlais tu faisais un lien sur le stress et les glucides. Mais super intéressant, si tu arrives à une adaptation métabolique, le fait d'augmenter, et moi j'appelle ça un repas « refeed », on avait parlé, une fois de temps en temps, d'augmenter ton apport en calories, même si c'est en perte de poids, une journée par semaine, genre, ou par mois, dépendamment, gros repas sous forme de glucides très élevé, rétablit cette hormone-là de leptine et fait en sorte que ça va être plus facile après ça de reperdre du poids. La leptine, by the way, c'est logique, est directement sécrétée de où? Et ça, c'est super intéressant à savoir. D'ici, OK? Partout, là, mais des adipocytes, de nos réserves de graisse, c'est nos cellules adipeuses qui sécrètent la leptine au niveau du cerveau. Parce que quand elles deviennent pleines ou qu'il y en a trop, le corps fait comme « Oh my God, j'envoie de la leptine pour que tu arrêtes de manger, pour pas que tu deviennes trop gros et en surpoids. » Quand on parle d'homéostasie et de faire en sorte que le corps et le poids est stable, c'est exactement
ça. Le corps est toujours plus intelligent que nous.
Le corps veut toujours que tu sois stable. Ouais. Et c'est-tu quoi? Très intéressant, OK? Puis d'ailleurs, parce que les gens pourraient dire, mais pourquoi qu'il y a des personnes qui deviennent en surpoids? Tu sais, si on a la ghrelin et la leptine, ça devrait faire en sorte que, tu sais, ça pallie. Tu n'as plus faim, tu arrêtes de manger. Tu as faim, tu manges, donc ça devrait se pallier. 100% d'accord. Cependant,
Chez les personnes obèses, on observe souvent un phénomène de résistance à la leptine. Fucking intéressant. Bien que ces personnes produisent des niveaux élevés de leptine, qui leur dit « arrête de bouffer », leur cerveau ne répond plus correctement au signal de satiété, ce qui peut conduire à une surconsommation de nourriture malgré des réserves énergétiques suffisantes. Vraiment intéressant. Fait que quand on parle d'adaptation métabolique, c'est que oui, le corps ralentit son métabolisme. Le corps sécrète moins de leptine pour te dire que tu as plus faim ou moins faim, dépendamment de la situation, ghréline, leptine. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que quand on parle de perte de poids qui est durable, on doit comprendre ces choses-là parce qu'éventuellement, ce n'est pas est-ce que tu vas atteindre un stade de plateau. C'est quand est-ce que tu vas atteindre un stade de plateau. Si tu as 10 livres à perdre comme moi je faisais, je n'ai pas atteint un an et demi, ça a été facile. Si j'en avais 25 ou 30 ou 40, j'aurais éventuellement atteint un stade de plateau. Ça aurait été difficile à cause de ça. Et là, j'aurais pu manger des carbs, des glucides, repas refeed pour rétablir mes réserves de leptine, accélérer mon métabolisme pendant peut-être 1, 2, 3, 4 semaines pour rétablir mon métabolisme basal, pour retomber en perte. Tu sais, il y a des façons de pallier des stades de plateau. Mais ça, c'est les raisons derrière les stades de plateau. J'en dis une dernière. Adaptation comportementale. Très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Instinctivement, lorsqu'on est en perte de poids drastique sur le long terme, on cherche à bouger moins de façon instinctive sans le vouloir. Et c'est justement le lien que je voulais faire déjà tantôt. Et tu m'as introduit le sujet, le NEAT. Le NEAT en passant... Hey, by the way, j'ai changé un petit peu mon take là-dessus, OK? Parce que j'ai beaucoup lu sur le NEAT et dans le fond, le NEAT, ce n'est pas quelque chose qui est modifiable. Dans le sens que, tu sais, souvent, on avait tendance à dire...
c'est la chose qui était le plus variable dans un processus, c'était ça qu'on...
Non, mais ce qu'on disait, je veux dire, c'est là que j'ai changé mon take, j'apprends évidemment, et je disais, exemple, mettons, je vais augmenter mon NEAT, ma dépense énergétique, je vais aller marcher. Et là, j'allais prendre une marche, et là, ah, j'ai augmenté mon NEAT. Mais si c'est conscient, ce n'est pas du NEAT.
Okay.
Et il y avait un autre terme qui était NEA,
de
quelque chose
de la
d'autre.
Pâte, techniquement,
ça,
c'est
du
NEAT.
Okay. Et voilà. Ouais. OK? Parce que le NEAT, quand on parle d'adaptation comportementale de façon instinctive, ça se fait tout seul. Et c'est-tu quoi? Je me suis rendu compte, si je ramène un peu le concept de ma perte de poids que j'avais faite, c'était dans un autre podcast qu'on avait parlé de ça, mais j'ai été pendant un bout, j'ai descendu à, mettons, le 9,7% que je te parlais, et rendu à 10% à peu près, là, j'avais moins le goût de bouger. Genre, je sentais que j'étais comme, tu sais, j'étais plus zen, mais plus lâche, littéralement. Puis plus que j'augmente mes calories, plus que je suis comme, oh my God, j'ai le goût de bouger, c'est comme, tu sais, mon NEAT instinctivement, je le fais plus, ça. T'sais, instinctivement, je bouge plus parce que mon corps, c'est tellement bien fait, le corps humain. Le corps cherche, sans te le dire de le faire, lui-même, il s'adapte pour qu'il le fasse. Il cherche à bouger plus sans que tu le saches. Fait que tu bouges plus et qu'est-ce qui se passe? Si tu bouges plus, ça t'évite de tomber en surpoids. Parce que si tu manges plus de calories puis tu ne bougeais pas plus, tu aurais plus d'énergie. Tu tomberas en surpoids. Fait que le corps, de façon instinctive, il te fait bouger plus sans que tu t'en rendes compte pour pas que tu tombes en surpoids. C'est insane. Moi, ça me fait halluciner.
C'est passionnant, le corps.
Fait que quand on vous dit qu'on est passionné, là, je vous dis ça, j'ai des frissons. Je dis ça, puis ça me fait capoter.
Mais tu sais, c'est incroyable de voir toutes les hormones, toutes les interactions.
C'est fou,
tantôt, justement, dans le premier point que j'ai cité, justement, le profil hormonal, le sexe, toutes ces choses-là, les neurotypes. Il y a beaucoup de choses à savoir pour réussir à faire une perte de poids durable, mais. Le but, encore une fois, on revient tout le temps à ça, c'est de s'éduquer puis c'est de comprendre la matière. Puis tu sais, leptine...
Moi, ça fait le tour, by the way, fait que si tu veux, en même temps...
Ben, après ça, j'ai embarqué dans l'autre sujet, mais tu sais, un exemple de la leptine au niveau du cerveau puis un exemple d'une adaptation métabolique. Mettons, je me prends moi, par exemple, en ce moment, qui mange un 2700-2800 calories. Si, admettons, je diminue mon nombre de calories à 2000, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être affamé bien comme du monde. Le corps va être en mode survie. Je vais vouloir diminuer graduellement mon activité physique parce que j'ai moins d'énergie. Après 3 semaines, 1 mois, parce que c'est quand même drastique, je ne veux pas te baisser de 800 calories. Après, mettons, on va dire 1 mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 2000 calories, ça va devenir ma nouvelle réalité. Mon corps va s'adapter à ça. Puis là, je vais être capable de manger 2000 puis je ne ressentirai plus la faim. Fait que je vais commencer à arrêter de recevoir ces signaux-là, mais mes performances, mon corps va s'être adapté, je vais juste être plus faible overall.
Tu ne ressentiras plus la faim parce que,
instinctivement, leptine, le comportemental, ton corps va ralentir. Donc, s'il ralentit, tu vas dépenser moins d'énergie. Exactement. Et le fait que tu dépenses moins d'énergie, tu vas avoir moins faim.
Donc, je vais moins brûler aussi. Fait que mon processus de perte de poids n'ira pas plus vite.
Non, c'est ça, exact.
Puis, d'un autre côté, si je repars de 2000 calories et que je remonte pendant un mois de temps à 2800 calories, première semaine, j'ai de la misère à tout manger ça. J'arrive, j'essaie de manger mon 2800 calories, je suis à côté tout le temps. Mon corps n'arrête pas de m'envoyer des signaux comme quoi qu'il faut que j'arrête de manger parce que j'ai plus faim. Après une semaine, je suis habitué, ça commence à devenir ma réalité. Puis après ça, whoop, la performance, tout le corps revient à son, on va dire, à son adaptation.
Thermostat accélère.
Exactement.
Plus d'énergie.
Fait que tu sais, c'est super intéressant de voir ça, mais souvent les personnes, qu'est-ce qu'ils entendent pour la perte de poids? Bouger plus, manger moins. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils viennent à couper toute leur réserve, leur énergie consommée. Là, tranquillement, pas vite, ils viennent à affaiblir leur fonction vitale. Ils bougent plus, mais là, le corps va commencer à envoyer ces différents signaux-là que tu as expliqués.
C'est quoi le pire, c'est que ce que tu as dit, je suis contre ça, mais dans le fond, c'est la bonne réponse. Dans le sens que pour perdre du poids, tu dois bouger plus, manger moins. La seule affaire, et c'est là, c'est un gros mais, c'est que les gens ne bougent jamais. Donc là, tu dis bouge plus, tu te mets à t'entraîner 5 fois par semaine. Puis là, tu dis mange moins. C'est pas tant qu'ils mangent trop, c'est qu'ils mangent tellement de scrap. Et là, en plus, t'en manges moins.
Ouais.
Mais au bout de la ligne, ils n'ont pas plus de nutriments essentiels pour bien fonctionner. Fait que la réponse est vraie. Mm. Mais l'affaire, c'est que c'est tellement tout bâti de pas la bonne façon. C'est là que les gens se sont dans le
Parce qu'au final, les gens, c'est pas de manger moins. C'est pas ça. C'est de manger en général plus. Mais c'est de manger plus et mieux. Ouais, mais adapté à ton métabolisme. Tu sais, j'ai une de mes clientes hier, justement, meilleur exemple. Hier, ma cliente arrive, puis tu sais, son processus a bien été, mais il y avait des petites calories rajoutées dans son protocole. Puis elle était même brave à les voir par elle-même. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai fait un petit exercice. Combien de calories a une Timbits? C'est un chiffre.
Je sais même pas.
130-140 calories pour une bouchée. Fait que tu sais, tu manges un. Mettons, ça vient en boîte de 20 puis de 40. Fait que toi, tu dégommes une boîte de vin, tu viens de manger 2000 calories. Mm. Fait que tu viens de manger 2000 calories de pâtes, c'est facile à rentrer puis tu les quittes. Combien a un biscuit Oreo?
Aucune idée, man. Tu me poses des questions des affaires que je mange.
C'est entre 5 et 150. Ça monte vite en tabarouette. Fait que c'est pas de manger moins, c'est d'arrêter cette scrap-là qui est bourrée de calories vides, puis c'est de commencer à manger plus de bons aliments puis de les quittes. Fait que vraiment intéressant, la leptine au niveau du cerveau, l'adaptation comportementale et métabolique. Honnêtement, je pense que c'est des gros points marquants. Fait que tu sais, pour faire un gros résumé, la première étape à faire, c'est de réussir à comprendre que votre corps va finir par avoir un plateau. Parce que la perte de poids, on va s'entendre, c'est pas nécessairement ce que le corps veut. C'est comme s'il était en mode survie puis en craving en tant que tel. Après ça, comment?
Je veux juste te revenir parce que tu m'as... J'étais comme, pense pas que c'est entre 150 et... excuse-moi.
C'est combien? Parler,
je me suis dit, je pense pas que c'est entre 100 et 150 calories un biscuit Oreo, c'est combien?
Vas-y.
J'ai demandé à notre boy chat GPT. Ça dit, là, je sais pas à quel point, là, mais c'est précis, mais ça dit 53 calories par biscuit Oreo.
Rien que ça? Ah ben là, vous pouvez manger plus de biscuits Oreo.
C'est ça, c'est 3 finalement. Okay. J'étais comme 150, c'était un Timbit.
Je pensais que c'était bien plus Timbit, c'est cochon. Là. J'ai vu ça dans la web. Puis Mr. Puff, c'est encore pire. L'autre point, l'impact des habitudes alimentaires et comportementales, justement, t'en as cité un mot puis tu le quittes, mais moi, ce que j'avais pensé à faire dans ce point-là, c'était de mettre une mise en situation. Parce que, tu sais, souvent les personnes, puis c'est bien important de comprendre, quand ils viennent nous voir, les personnes viennent nous voir parce qu'ils veulent perdre 20 livres, ou 30, ou 40, ou 50, ou 60. Puis comme tantôt on a cité, ça fait 60, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils prennent très, très, très mal leur santé, puis qu'ils sont vraiment dans leur dixième. Est en bas de leur priorité complètement. Fait qu'ils ne marchent pas, ils ne bougent pas, ils boivent de l'alcool, ils ne prennent pas soin d'eux. Puis tu sais, je vous fais un résumé dans le fond d'un cas client, puis après ça, tu me diras comment tu perçois ça, Sam. Okay? On te donnera notre interprétation. Client, ouais. Un monsieur, 60 ans, 195 livres, 5 pieds 7, masse musculaire, environ 103% de masse musculaire, masse adipeuse, environ 370%, son pourcentage de gras, 35%. La personne a un niveau de gras viscéral à 16. Il y a beaucoup de gras intra dans le cœur, autour des organes, etc. Principalement, il vient me voir parce qu'il veut perdre du poids. Mais la personne, check bien ça. Atteinte de diabète de type 2, prend 7 médications, a des veines obstruées. Cette personne-là utilise de l'alcool régulièrement, a tendance à avoir des maux de tête fréquemment, ne fait aucune activité physique et n'a pas bougé depuis les 20 dernières années. Cette personne-là a des selles molles très, très, très rapides et très constantes. Cette personne-là est en hypertension artérielle, son sommeil est de très mauvaise qualité. Il se réveille en moyenne 2 fois par nuit. Il pense peut-être faire de l'apnée du sommeil. Il dort en moyenne gros maximum 5 heures. Il y a beaucoup d'intolérance alimentaire. Cette personne-là fume la cigarette, consomme beaucoup d'alcool. Et a des douleurs, donc il se promène avec une canne.
Non, t'as-tu pris genre, fais-moi le pire cas possible
non,
de l'histoire?
Non, c'est un cas typique.
Ouais, je sais.
Mais cette personne-là, techniquement, c'est le résumé de personnes souvent qui vont vouloir perdre du poids puis qui font pas d'introspection sur eux-mêmes, de l'état de santé dans lequel ils sont. Tu sais, oui, c'est un gros cas. Ça aurait pu être la madame qui a... Littéralement, elle vient de vivre un accouchement ou une césarienne. Elle vient de vivre tout qu'un chamboulement hormonal. Puis là, 3 mois plus tard, elle veut perdre du poids. Tout ça pour expliquer que, tu sais, pourquoi est-ce que je dis ça avec ce client-là? C'est qu'il vient nous voir pour perdre du poids. Mais cette personne-là a tellement de choses à optimiser au niveau de son écosystème. Il y a tellement de petits combats à réussir à les gagner, comme l'alcool, comme la cigarette, comme de réussir à couper les restaurants, comme de réussir à aller voir un physio, de rétablir son genou, de commencer à être capable d'aller marcher un petit peu plus, que... Pour réussir à faire une perte de poids durable, cette personne-là, ça va être difficile d'atteindre ça. Tu comprends? Puis souvent, les personnes ont tendance à avoir l'illusion du résultat trop rapide, puis ils ont de la misère à être capable de voir ce qui est réellement faisable. Puis tu sais, cette personne-là, il faut qu'on y fasse comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, de changements drastiques, de façons de penser, de reprogrammation à faire pour réussir à l'atteindre. Fait que la perte de poids durable, c'est à partir du moment où tu commences à travailler sur toi. Puis tu commences à comprendre qu'il te faut un déficit calorique, mais il faut aussi que tu enlèves tout ce qui te nuit à, on va dire, ta santé. Puis tu sais, ce client-là, ça en est un bel exemple parfait. Je trouvais que c'était un cas typique, mais... La perte de poids est la représentation d'un corps en bonne santé. Et si vous avez des habitudes qui vous tirent vers le bas, le manque de sommeil, le stress, l'alcool, la cigarette, la toxicité environnementale, les émotions négatives, le surplus calorique, les binge eating, toutes ces choses-là, c'est là que votre combat devrait se prioriser en premier lieu. Vous devez réussir à gagner ces petits combats-là. Et ensuite de ça, vous allez être un pas plus avancé vers la perte de poids durable. Mais gang, le point dans tout ça que moi et Sam, on essaie de vous dire, c'est arrêtez d'aller faire des diètes restrictives, rapides, qui vous mèneront à rien. Il faut absolument changer les habitudes à l'intérieur de vous, votre programmation et tout. Ça revient tout le temps à ça. Puis tu sais, tantôt, le point numéro un que j'ai parlé, c'est de comprendre vos métriques, de comprendre que vous avez vos antécédents, de comprendre que vous avez vos hormones, que vous avez tout votre vécu, que votre alimentation est différente de toutes les autres personnes, de comprendre que vous avez une psychologie, des stress, des neurotypes absolument différents de tout le monde. Et c'est de comprendre aussi que par rapport à votre objectif puis par rapport à comment est-ce que vous avez, on va dire, négligé votre santé et votre poids, il y a un temps alloué à ça, puis il y a une reprogrammation à faire. Puis cette reprogrammation-là, acceptez-le que ça peut être plus long que ce que vous anticipez. Parce que cette personne-là qui vient nous voir, c'est pas un travail de 3 mois, c'est un travail de 3 ans. Vous comprenez? Fait que c'est un peu ça que Sam voulait expliquer aussi aujourd'hui. C'est le corps va créer des adaptations. Allez chercher de l'aide si vous ressentez le besoin d'avoir de l'aide face à ça. C'est notre travail de faire ça. Mais le point dans tout ça, c'est mettez-vous pas de pression, travaillez votre santé, faites en sorte de développer les habitudes et devenez la personne qui va être capable d'avoir une perte de poids durable et arrêtez de croire au miracle. T'avais-tu des petits points à rajouter là-dessus, Sam?
Ben, je conclurai en fait. Hey, 1 heure pile, on est bon, mais. 1 heure pile,
ben, j'ai encore un dernier petit point, okay, mais ben c'est comme le petit point qui va bien closer ben, le podcast d'aujourd'hui.
OK, ben d'abord, je veux dire mon point avant.
Vas-y.
Tu sais, dans le fond, j'aurais closé le podcast là-dessus, tu closeras après, c'est vraiment pas grave. Dans le fond, moi, si j'avais à répondre à la question, parce que tu sais, dans le fond, c'est une question qu'on a posée un peu, tu sais, combien de temps devrait durer une perte de poids? Puis 1 heure d'explication pour l'expliquer, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, au bout de la ligne. Non, mais on a répondu à la question. Ouais. Parce que, en fait, on a bien répondu. Parce que si quelqu'un te pose la question, puis tu réponds, ah, ça devrait être tant de temps. Ben, tu comprends pas, man. Parce c'est que, genre, ça dépend tellement de chaque personne. C'est relatif d'une personne à l'autre. Donc, combien de temps devrait durer une perte de poids? Ça dépend selon chacun. Et je vais même rajouter un point, plus que c'est lent, mieux que ça. Ouais. Jusqu'à un certain point, parce que si c'est trop lent, tu vas te décourager. Fait que tu veux pas que ce soit trop lent. Mais plus que c'est lent dans un sens, moins que tu fais ça de façon drastique et intense, plus que ça va être facile à maintenir sur le long terme. Et je dirais mon dernier point, la chose la plus importante, autant, même je pourrais mettre ça dans tous les podcasts littéralement, là, je le répète tout le temps, mais c'est l'adhérence à ce que vous faites. Okay? Parce que plus que c'est facile et plus que vous adhérez aux stratégies ou à la stratégie que vous avez, au processus, plus que ça va être facile de le maintenir sur le long terme. Et on le dit, c'est pas une perte de poids qu'on veut faire pendant 3 mois, puis qu'après ça, on arrête tout. C'est, on veut faire un nouveau changement du mode de vie pour le maintenir sur le long terme et que ça devienne un nouveau mode de vie. Donc, plus que tu adhères à ça, mieux que c'est. Tout simplement.
Tu dois changer en tant que personne tes habitudes qui te tirent vers le bas. Le point, dans le fond, c'est comment, tu sais, un mindset shift, puis c'est un peu ce que tu viens de dire, mais la perception de la réussite et de l'échec. Souvent, les personnes viennent nous voir, puis tu sais, c'est plate à dire, mais il y a du monde qui vont perdre 20 livres en 6 mois, comme il y a d'autres personnes 20 livres en 2 mois, comme il y a du monde qui vont perdre 100 livres en 1 an, comme d'autres personnes vont perdre 100 livres en 6 ans. Fait que c'est toujours la perception de la réussite et de l'échec. Puis il faut réussir à changer notre mindset, notre shift. Il faut le shifter face à ça. Tu sais, moi, j'ai toujours eu une mentalité, c'est j'ai décidé de prendre soin de ma santé. Puis c'est important pour moi. Ma santé, c'est dans mes top priorités, c'est pas ma priorité numéro un. Puis à partir du moment où on prend la décision de vouloir travailler sur notre poids, de vouloir travailler à devenir un être humain meilleur au niveau de notre alimentation, pour notre corps, pour nous, bien, abandonner juste pas. Puis enlever cette option-là d'abandonner un processus de perte de poids. Ce qu'on vous dit, c'est d'aimer, comme Sam vient de citer, d'aimer le processus dans lequel vous faites et d'avoir un processus qui est bien adapté à vous, qui va vous permettre d'avoir du plaisir, qui va vous permettre de vivre votre vie, qui va vous permettre d'aller au restaurant avec des amis. Mais l'affaire, c'est que si votre structure doit avoir 200 ou 400 ou 600 calories de déficit, il faut la respecter. Fait que, tu sais, si vous mettez, moi, je veux perdre 60 livres en 3 mois, il te faut un déficit monstrueux de 2000 calories par jour. Ça ne marchera pas. Mais si tu dis, je vais perdre 60 livres en 3 ans et je vais avoir un beau mode de vie équilibré, du plaisir à travers ça et je vais me reprogrammer, bien, tu vas être capable de le faire parce que ça va te demander 150 à 200 calories par jour pendant ce nombre de temps-là. Fait que c'est ça le point dans tout ça. Le deuxième point, puis c'est le point qu'on a cité depuis le début, adopter toujours au niveau de la perte de poids une approche long terme. Je suis pas en perte de poids pour les 3 prochains mois, je suis en perte de poids pour le reste de ma vie. Pourquoi? Parce que je veux pas être en surpoids. Fait que moi, ma job, c'est toujours en décision de réussir à garder un poids santé. Fait que si je tombe dedans, on va dire, de l'excès, puis que là, pendant un mois, je me permets de manger de la poutine, de la pizza, des crèmes molles, de la nourriture malsaine, ben au final, un, j'affecte mon estime personnelle, mais deux, je ne me respecte pas. Puis au final, je ne suis pas capable. J'ai décidé pour moi-même de ne jamais accepter ce comportement-là. Donc, je vais juste tout simplement continuer mon processus de perte de poids. S'il y a quelqu'un qui l'échappe pendant une semaine, reviens sur ta ligne directrice, refais ce que tu as à faire.
Ben, je veux juste dire de quoi que tu as dit. Je vais reprendre de quoi parce que je trouve ça super important. D'après moi, tu l'as mal dit, en tout cas, je crois. Mais tu veux être en perte de poids pour le restant de ta vie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça dans le sens que tu devrais être en perte de poids tant que tu as du poids à perdre et après ça, être en espèce d'équilibre. Ouais. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, le point, en fait, que je veux dire, c'est que si tu as besoin d'être en perte de poids et que tu es en perte de poids pour le restant de ta vie, il y a quelque chose, il y a une problématique.
Ce que je voulais dire tantôt, c'est la vision en tant que telle que tu dois avoir. Parce que si on fait juste se baser sur la société actuelle, on est tout le temps en prise de poids. Fait que le but, c'est que tu dois toujours penser à, techniquement, je veux être capable de bien gérer mon poids.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais.
Fait que mon but, c'est de travailler pour ma santé, pour mon temps, pour mon corps. Fait que le but, c'est cet aliment-là, est-ce qu'il va me faire rentrer? Est-ce que ces habitudes-là vont me faire prendre du poids ou perdre du poids ou maintenir mon poids? Le but, c'est tout le temps d'être dans le maintien ou dans la perte. C'est un peu ça que je voulais dire.
Ouais.
Le dernier point, avant-dernier point, gérer les attentes et éviter les comparaisons. On en a parlé un million de fois dans les podcasts, mais si vous vous comparez à d'autres personnes, ah, elle a perdu 40 livres en 6 mois, donc je veux faire la même affaire. Je suis désolé, mais comme tantôt on a parlé dans le premier point, ce n'est pas ça, ça ne sera pas ça, et vous allez juste vous affecter psychologiquement, puis vous allez juste faire du mal. Puis c'est une des raisons du pourquoi vous allez arrêter votre processus, parce que vous vous comparez. Devenez la meilleure version de vous-même. Point. Et le dernier point, vous devez impérativement, puis ça, moi puis Sam, on passe notre temps à faire ça, puis c'est la raison du pourquoi on fait de la PNL, vous devez devenir résilient mentalement, vous devez être fort en tant que personne, puis vous devez être capable de prendre des fois des échecs. Comme exemple, vous partez dans le temps des fêtes, vous revenez après le temps des fêtes, après 2 semaines, on va dire avec plus de chocolat, plus d'alcool, plus de plaisir, coucher plus tard. Il ne faut pas vous démoraliser, il faut que vous soyez capable d'être l'être humain qui a la force de caractère pour être capable de vous mettre sur le droit chemin. Vous devez être capable de comprendre que l'être humain ne sera pas toujours en ligne droite au niveau de la perte de poids. Vous allez avoir vos moments où ça va être plus difficile, vous allez être moins motivé, vous allez avoir moins de discipline, où il va être plus difficile de perdre du poids. Fait que vous devez être capable d'avoir cette mentalité-là de, on va dire, guerrier qui va vous permettre de continuer votre processus parce que si vous avez 60 livres à perdre, ben vous avez à vous restructurer, vous avez à restructurer votre écosystème. Mmh. Fait que c'était pas mal les points que je voulais dire, Sam.
J'aurais techniquement fini, mais je viens d'avoir un flash.
Vas-y.
Je disais, tu sais, on parle beaucoup de perte de poids, de couper, de faire, tu sais. Je vais juste finir sur une affaire, c'est focusser donc des fois sur la performance. Dans le sens, le but, c'est pas d'être un athlète, c'est pas ça que je dis. Mais arrêtez de juste focus sur qu'est-ce que vous devez couper et essayez de focus sur qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Dans le sens que, à la place de dire, hey, je vais couper des calories,
pourquoi tu ne dirais pas, hey, je vais commencer à faire de l'exercice qui va monter mon apport, excuse-moi, qui va augmenter ma dépense énergétique. C'est comme si tu avais coupé des calories au niveau de la bouffe en termes de mathématiques au niveau de la perte de poids, mais tu vas focus sur quelque chose qui te permet d'aller, oui, couper des calories en même temps par l'entremise, mais aussi bosser de la masse musculaire, améliorer ton, exemple, l'anxiété, les blessures, les ci, les ça. Fait que focuser des fois sur améliorer votre version, juste de couper. L'affaire, c'est que nous, des fois, on n'a pas le choix de le faire parce qu'il y en a qui sont soit pas capables de le faire, soit qui veulent pas le faire, soit qui veulent pas le mettre en application. Puis des fois, on n'a pas le choix de le faire dans certaines situations. Mmh. Mais des fois, c'est important de focuser sur de l'autre côté aussi. Je pense que ça fait le tour. Très, très, très intéressant comme podcast. Merci, Dieu, d'avoir été là comme d'habitude.
Puis, ça fait plaisir.
On se revoit dans l'épisode 3.
Ouais. Fait que merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez aimé le podcast, partagez, mais cliquez sur la petite cloche pour nous mettre justement dans vos notifications. Et s'il vous plaît, laissez-nous un 5 étoiles. Que vous êtes sur YouTube, laissez-nous des commentaires. Dites-nous comment vous trouvez le podcast. Posez-nous vos questions. Puis si vous avez des sujets de podcast qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on discute, moi et Samuel, ou avec des invités, envoyez-nous là directement sur notre page Facebook en Messenger sur Clinique Phoenix. Un dernier point aussi. Merci énormément d'avoir été présent. On se voit à chaque vendredi à partir de maintenant. Moi et Samuel, on s'est engagé à publier un nouveau podcast à chaque semaine. Fait que soyez présents.